BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Comme tous les jours, on va décrypter l'actualité avec nos reporters, nos invités. Jean-Marc est avec nous. Bonjour Jean-Marc, tout
Bonjour,
va bien ?
Bonjour, tout va bien.
C'est parti au sommaire de ce mardi 27 septembre. On reviendra à la une sur cette tendance inquiétante sur les marchés obligataires, envolée de l'inflation et des taux à long terme, dette excessive. Attention à la spirale négative, on va faire un point dans une minute avec Antoine Larigaudry. Dans notre focus, nous parlerons de la situation tendue des maraîchers producteurs de légumes et de fruits. Un quart de ces entreprises est menacée par la flambée de la facture énergétique. On fera un point très précis avec Alexandra Paget dans 5 minutes. Et puis avec notre invité Benoît Serre, nous parlerons des salariés, de leurs managers, de leurs DRH aussi en ces temps de grandes démissions. Comment les entreprises s'adaptent aux demandes des candidats à l'embauche? On verra ça dans 10 minutes. N'oubliez pas, à 12h30, Lorraine Goumeau nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission. BFM avec vous, on répondra aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Allez, tout de suite, c'est le journal. Et on commence avec vous, Antoine Larigaudry. Situation encore très tendue sur l'obligataire et c'est le principal souci des marchés en ce moment.
Oui, avec et c'est le chiffre choc, hein, finalement, c'est 2,7% atteint sur la dette française à 10 ans. C'est un plus haut de 10 ans, précisément. Et ça exprime toute l'inquiétude des marchés. Mais enfin, la tension se ressent un petit peu partout. Alors, sur la dette italienne, pour des raisons politiques, et sur les dettes de tous les pays de l'Union européenne, là, en ce moment, ainsi que sur la dette britannique, bien sûr aussi. Les deux facteurs principaux, c'est qu'on reste sur des anticipations très fortes d'attitude des banques centrales vis-à-vis de l'inflation. Une attitude extrêmement ferme étant donné que le phénomène inflationniste, lui, ne se tarit absolument pas, n'a pas l'air de vouloir plafonner ou de montrer des signes de faiblesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, jour pour jour, on avait encore des banquiers centraux qui en étaient à dire « oui, c'est un phénomène temporaire ». Donc là, c'est vous dire le train de retard qu'ont les banques centrales par rapport à la lutte contre ce phénomène. Et le phénomène aggravant sur le marché obligataire, c'est aussi qu'en ce moment, sont en train d'être présentés des budgets. Le feu aux poudres, ça a été vendredi avec la présentation du budget britannique. Quand on a un économiste de renom comme Mohamed El-Erian, qui est le chef stratégiste d'Alliance, qui dit « mais c'est un budget absolument incroyablement faible face à une économie qui donne des signes de faiblesse vraiment très très inquiétants », on a de quoi effectivement avoir un petit peu peur sur les marchés. Et puis il y a le budget français aussi qui soulève énormément de questions concernant son financement, concernant le renchérissement du coût de la dette vis-à-vis de taux qui n'arrêtent pas de grimper. Donc on a cette fusée à deux étages là en ce moment qui fait plafonner les taux sur les marchés obligataires. Enfin plafonner non, parce que ça continue de grimper. Oui. La situation est encore archi tendue et on craint une forme de début de krach.
Oui, ben effectivement, incertitude, hein, Jean-Marc Daniel. On va vous retrouver dans 5 minutes, Antoine Larigaudry, pour le point marché. Mais c'est vrai que là, les facteurs s'alignent.
Oui, quand on regarde l'évolution des taux d'intérêt, normalement, il y a un taux d'intérêt naturel. Alors, il y a un économiste, un historien de l'économie qui a regardé le taux d'intérêt de la puissance dominante depuis 1400. Il regarde combien c'était à Venise et puis combien c'est à New York aujourd'hui. Et il dit, il y a un taux d'intérêt naturel qui correspond à la règle qu'on appelle la règle de Solow. Le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance potentielle majoré d'un taux d'inflation structurelle. Et donc, et puis il y a en plus de ce taux d'intérêt un élément d'incertitude. Et depuis le 15e siècle, depuis Venise, cet élément d'incertitude s'est régulièrement abaissé. Et là, on est de nouveau dans une phase où, assez paradoxalement, on peut considérer que l'élément d'incertitude s'accroît. On a connu ça au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mmh. On a connu ça, effectivement, dans les années 1870 aussi. Il y a une vraie incertitude qui fait que les gouvernements vont être obligés assez vite d'avoir des positions assez claires sur la politique qu'ils entendent mener. L'incertitude, c'est qu'est-ce qui va se passer en Italie. Si les taux d'intérêt sont aussi élevés en Italie, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que va faire le nouveau gouvernement Italie. Si les taux d'intérêt sont aussi élevés au Royaume-Uni, c'est qu'on se pose des questions sur la capacité du gouvernement anglais de réaliser la situation réelle de l'économie du pays. Mmh. On a l'impression que le discours qui est tenu est totalement perpendiculaire à la réalité de l'économie britannique. Et donc, les taux d'intérêt, c'est taux d'intérêt naturel règle solo, on n'en est pas loin, et incertitude, il faudrait que les gouvernements réagissent pour lever l'incertitude.
Une grande période d'incertitude et difficulté de prévoir les choses, on y reviendra dans votre édito tout à l'heure, Jean-Marc Daniel. Dans l'actualité également, le gouvernement français qui est en passe de choisir la personne qui va diriger EDF, annonce de Bruno Le Maire ce matin, ce sera deux personnes pour remplacer Jean-Bernard Lévy. La direction générale devrait revenir à Luc Rémont, actuel responsable des opérations internationales de Schneider Electric, selon nos informations, et d'après les échos, c'est Claude Imo Venn, président d'Orano, qui devrait prendre la présidence du groupe. Jean-Marc, un petit commentaire?
Oui, Luc Rémont, c'est un de mes jeunes camarades. Il est rentré à l'école polytechnique 14 ans après moi. Ce que je trouve intéressant, les gens ne mesurent pas ça, c'est qu'à la sortie de l'X, il a choisi le corps de l'armement. Et en général, à EDF, on met plutôt des gens qui ont choisi le corps des mines. Donc c'est une vraie révolution, même si je pense que dans la France ordinaire, enfin la France normale, la France des gens qui ne savent pas exactement comment fonctionne l'école polytechnique, c'est un message qui va passer relativement inaperçu.
Oui, effectivement. En tout cas, officialisation à venir dans les heures qui viennent. On y reviendra, évidemment. Et puis, cette réunion très tendue chez les salariés de Stellantis, direction et syndicats qui avaient rendez-vous ce matin pour parler pouvoir d'achat. Dans ce contexte d'inflation, les syndicats du groupe espèrent beaucoup de ce rendez-vous, alors que Renault avait proposé une prime de 1 000 euros pour la majorité de ses salariés. Justine Vassogne.
Des débrayages la semaine dernière, encore deux sites partiellement en grève dans le Nord et en Moselle. Hier, la CGT est à la manœuvre pour mettre une pression maximale sur la direction de Stellantis avant l'ouverture des négociations. Son objectif notamment, obtenir une prime de pouvoir d'achat de 6 000 euros. Les autres organisations syndicales n'en demandent pas tant, mais toutes attendent un geste fort. La prime de 1 000 euros accordée aux salariés de Renault n'a échappé à personne. Salariés et syndicats ont fait leurs calculs. Renault a perdu plus d'un milliard d'euros au premier semestre, quand Stellantis a dégagé 8 milliards d'euros de bénéfices. Pour convaincre la direction qui dit avoir regardé les négociations chez Renault avec intérêt, devra faire mieux. Les syndicats demandent aussi d'accélérer le calendrier des négociations salariales qui débutent traditionnellement dans le secteur en février. Aucun d'entre eux n'avait signé les NAO l'année dernière, fait très rare pour la CFTC ou la CFE-CGC. Pour l'heure, chacun se dit prêt au dialogue, mais le climat social, nous explique-t-on, est très tendu.
Allez, c'est l'heure de notre focus avec ce deuxième pilotage interministériel agriculture et agroalimentaire ce matin chez Roland Lescure, sur fond de crise énergétique qui touche aussi le secteur des fruits et légumes. C'est vrai, Alexandra Paget, que les maraîchers ne sont pas c'est pas la joie en ce moment dans ce secteur. Hein. Beaucoup d'inquiétudes.
Bah oui, effectivement, Sandra, comme sur tant d'autres secteurs, la guerre en Ukraine fait peser de lourdes menaces sur la filière, avec une envolée inévitable des coûts de production. Producteurs, grossistes, transporteurs, ils sonnent tous l'alerte. Leurs factures de gaz ou d'électricité ont été multipliées parfois par 10, s'ils ont récemment ou doivent prochainement renégocier leur contrat avec leurs fournisseurs d'énergie. C'est le cas d'un quart des entreprises du secteur, selon l'Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. Et quand on cultive des légumes sous serre chauffée, c'est dur à dire, la facture peut être très, très salée. Un producteur d'endives, par exemple, a vu sa note passer de 80 000 à 800 000 euros.
Ouais, ça concerne ces légumes qui sont cultivés sous serre, notamment effectivement les endives, les concombres, les tomates. Ce sont ces entreprises-là qui sont concernées. Il s'agit souvent de petites, voire de très petites entreprises, Alexandra.
Et oui, Sandra, et elles dépendent beaucoup, ces petites, voire très petites entreprises, de la grande distribution. Près de 70% de leurs ventes sont réalisées par ces grandes enseignes, 10% seulement sur les marchés, un peu plus de 8% par les primeurs. Donc vous imaginez répercuter la hausse de leurs coûts de production sur les prix, ça semble quand même assez difficile. D'autant que les produits en question ont déjà, vous l'avez tous vu en faisant vos courses, considérablement augmenté. L'interprofession exprime donc une angoisse franchement assez compréhensible.
Est-ce qu'il y a des pistes envisagées et envisageables? Évidemment, il demande de l'aide du gouvernement, ces producteurs de fruits et légumes, Alexandra.
Exactement. Emmanuel Macron a conseillé jeudi dernier aux entreprises et collectivités de ne pas signer de contrat d'énergie à des prix exorbitants en attendant une renégociation des tarifs. Mais quand vous devez entreposer votre marchandise dans des frigos, c'est un peu le couteau sous la gorge quand même. Les professionnels du secteur attendent donc le soutien de l'État, vous le disiez, mais pour pouvoir renégocier les tarifs des contrats qu'ils ont dû signer dans la panique, sans quoi, s'ils doivent payer une facture dont le montant mensuel représente désormais ce dont ils devaient s'acquitter en une année, c'est la clé sous la porte.
Oui, effectivement. Jean-Marc Daniel, on arrête de produire des fruits et des légumes aujourd'hui, on arrête de produire du verre dans les industries, ça commence à faire beaucoup, là.
Ah oui, ça commence à faire beaucoup, surtout sur l'agriculture. Mmh. Là aussi, je vais faire focus sur ce qui se passait autrefois. Au XVIIIe siècle, les premiers économistes, qui étaient les physiocrates, expliquaient que le rôle de l'agriculture, c'était de transformer le soleil en énergie quotidienne, en énergie que nous pouvions utiliser au travers notamment de la nourriture. Or là, même l'agriculture, qui était au centre de la réflexion, n'arrive pas à utiliser le soleil. Non. Elle est obligée de faire appel au gaz et
pour
et
les donc, serres, pour les sortir
tout
ça. Frigos, hein.
Et donc, je maintiens, je pense que l'objectif qu'on doit avoir, c'est de faire en sorte de pouvoir mieux utiliser le soleil. Vous savez, D'Alembert avait, je voulais écrire appeler mon prochain livre La promesse de D'Alembert, mais mon éditeur m'a dit plus personne ne sait qui est D'Alembert. Et D'Alembert avait promis à l'humanité que à la fin du XVIIIe siècle, on pourrait se chauffer, se nourrir, se vivre avec l'énergie du soleil sans avoir fait appel à d'autres formes d'énergie. On n'en est toujours pas là.
Ouais, on essaye. Hein,
on essaye, il faut absolument.
Mais pas encore. On n'a pas de fraises en hiver.
Et voilà, exactement. Merci beaucoup Alexandra Paget. Tout de suite l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
On s'inquiète puis on se rassure, Jean-Marc Daniel, mais est-ce qu'on peut encore compter sur les prévisions économiques dans une période comme celle-ci? C'est la question qu'on se pose un peu tous les jours.
Et oui, c'est une question qui est d'autant plus d'actualité que l'OCDE a fait sortir une série de prévisions hier et tout le monde a dit, mais écoutez, la prévision de l'OCDE sur la croissance de la France est légèrement inférieure à celle qui avait été avancée par Bruno Le Maire et qui sert de cadre au projet de budget qui va être négocié, qui va être discuté cette année, cet automne, pardon. Et donc la question, c'est est-ce que l'OCDE dément, désavoue, critique Bruno Le Maire? Or, quand on regarde dans les détails, ce que dit l'OCDE, c'est que finalement, on est dans une phase qui est tellement incertaine que la prévision de Bruno Le Maire, comme la prévision de l'OCDE, est tout aussi crédible, que l'enjeu maintenant, c'est plus d'afficher des chiffres de façon claire, péremptoire, de façon tout à fait structurée, avec une gamme de statistiques, mais de faire des scénarios.
Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on nous propose des scénarios. Le scénario du pire, le scénario du mieux.
Et donc, ce que mettent en avant de plus en plus les prévisionnistes, c'est la crédibilité des hypothèses qu'ils font. C'est pas le résultat de leurs travaux, c'est les crédibilité des hypothèses qu'ils font pour nourrir ces travaux. Et donc, moi, je pense qu'on va vers une situation où il faut plutôt retenir les scénarios de l'extrême, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que si la guerre s'arrête en Ukraine,
oui.
Alors là, ça va rebondir très rapidement, comme ça avait rebondi à la sortie du confinement en 2021. Et si, en revanche, on continue à bloquer la livraison de gaz, continue à avoir des ruptures d'approvisionnement énergétique, à ce moment-là, aucune des prévisions ni de Bruno Le Maire ni de l'OCDE ne sera réalisée.
C'est une question aussi de compréhension des habitants, des pays, de présenter les choses de cette façon, parce que des prévisions, il y en a de plus en plus d'organismes, ça devient assez illisible.
Ça devient assez illisible, et puis les prévisionnistes rappellent assez souvent une règle qui avait été dictée par Irving Fisher, qui était le grand économiste au moment de la crise des années 20, et on lui avait dit, mais vous n'avez pas annoncé la crise. Il avait dit, vous rendez compte ? Moi, qui suis la référence économique au niveau international, si j'avais dit qu'il allait y avoir une crise, il y aurait eu une telle panique que la crise, non seulement aurait eu lieu, mais elle aurait été encore plus grande que celle qui a eu lieu. Donc, je voyais bien qu'il allait y avoir une crise, mais j'étais obligé de rester discret pour ne pas générer des anticipations encore plus destructrices. Donc, on trouve toujours le moyen de retomber sur ses pieds. Ce qui est important, encore une fois, c'est de comprendre comment raisonnent les économistes, oui, plutôt que de reprendre pour argent comptant tous les chiffres qu'ils mettent en avant.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Allez, on fait un point Euronext tout de suite. Malgré l'agitation ambiante, Antoine, c'est relativement calme sur les marchés actions.
Ben, on a un CAC 40 qui rebondit. Alors, moins que tout à l'heure, hein, on est parti bille en tête avec un rebond même d'1,7%. Là, on a nettement réduit la voilure. On est à 0,32% de hausse, mais 5787 points. On gravite autour des 5800. Un marché qui avait besoin de se refaire après trois séances de baisse consécutives. Et puis, surtout, depuis le début de la semaine dernière, on perd 5%. Donc, il y avait certains titres qui étaient tombés si bas que ça nécessite une correction, un mouvement de rachat de position qui était sans doute un peu trop à découvert. le tout, faut pas l'oublier, dans un contexte de tension sur l'obligataire, ça on en a beaucoup parlé, d'affaiblissement des devises face au dollar, toutes les devises, hein, notamment l'euro qui reste à 0,96 ou la livre sterling qui rebondit un petit peu en direction d'un 0,8, mais enfin ça reste quand même pas très probant par rapport au plongeon d'hier. Et un autre facteur très intéressant et qu'il faut vraiment pas perdre de vue, c'est le baril de pétrole brut qui est tombé à ses niveaux d'avant la guerre en Ukraine. Donc voilà, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. On est à 83,92 sur le Brent de mer du Nord. Les plus fortes hausses du CAC 40 sont des valeurs de croissance. On veut revenir sur ces segments qui ont été maltraités par la forte hausse des taux obligataires. Malgré tout, on revient quand même dessus. Un ST Micro plus forte hausse à 3,27 de hausse, 35,22. On a Worldline plus de 87 à 43,38 €. Le luxe aussi, Hermès plus 1,9% à 1,196 €. Le luxe, hormis Kering, qui perd 2,8% à 459,95 €. Et à noter, Eurofins Scientifique en baisse de 2% à 58,96 €. Le CAC, donc, qui reste dans le vert, hein, malgré tout, malgré ses incertitudes. Plus 0,46%, on est à 5794 points, Sandra.
Et les grandes cryptos continuent de monter, Antoine.
Ben oui, ça peut paraître étonnant, mais alors les cryptos sont toujours un petit peu à l'avant-garde des éventuels rebonds techniques et des volontés de prise de risque, hein, sur les marchés. Donc c'est un indicateur avancé intéressant. Elles étaient en hausse un petit peu plus tôt ce matin. On s'est dit, tiens, ça va peut-être donner corps à un rebond sur les marchés financiers. Et peut-être qu'elles profitent aussi du déficit de crédibilité des monnaies en ce moment, hein, de la livre, de l'euro, etc. par rapport au dollar. Alors le dollar fort, ça a toujours fait du mal au Bitcoin. Mais là, pour une fois, le Bitcoin remonte 20 222 $ et l'Ethereum 1386.
Merci beaucoup Antoine Larry-Gaudry. Dans un instant, notre invité Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. On va faire un point sur ces salariés qui partent de leur entreprise, leur manager, leur DRH, comment les entreprises s'adaptent aux demandes des candidats à l'embauche. C'est dans 2 minutes, restez avec nous.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
60 minutes business avec nous, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Benoît.
Bonjour.
On va faire un point sur la rentrée, sur les aspirations des salariés, des candidats à l'embauche, mais aussi des DRH, des managers. Comment évolue, on s'est parlé de ça il y a 5 semaines environ, comment évolue cette rentrée, ce mois de septembre? On parlait de ce phénomène qui nous vient des États-Unis, de grande démission, mais qui est quand même moindre en France. Est-ce que ça continue ou est-ce que septembre a marqué un peu le retour des salariés au travail?
Septembre, ça marque le retour des salariés au travail, mais surtout, ça marque la conjonction d'un certain nombre de conséquences ou de situations dans lesquelles nous sommes. L'inflation, évidemment, les conséquences de la crise Covid, parce qu'il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire que les gens ont découvert qu'il y avait des organisations du travail qu'on pensait immuables et qui finalement ne l'étaient pas. Donc, il y a une attente assez forte, une forme d'impatience, une forme d'inquiétude, parce que l'environnement économique, international, tout ça, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Autant chez les salariés que chez les chefs d'entreprise, d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on doit faire face un peu à tout ça en même temps. Donc, c'est une rentrée assez intense, avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'inconnus et pas forcément toujours beaucoup de réponses.
Vous l'avez dit, organisation du travail qui a énormément changé. Le télétravail, évidemment, c'est l'une des premières demandes des candidats à l'embauche. On est à quelle part aujourd'hui de postes qui se jouent concrètement avec télétravail?
Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 30% des métiers en France qui sont dits télétravaillables et que pour cela, une large partie sont déjà sous un modèle de télétravail choisi par les entreprises. La grande majorité, c'est 2 jours par semaine. Cumulable, vous avez plein de formes différentes. En revanche, on n'a pas constaté ce qu'on redoutait, une sorte de fracture entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas.
Oui.
Donc, ça, c'est
ceux qui ne peuvent pas avoir un métier qui est télétravaillable le savent, de toute façon.
Voilà, et puis ils ont des organisations différentes. En revanche, on constate une demande assez forte, pas forcément sur le télétravail d'ailleurs, mais sur une amélioration de la liberté d'organisation dans mon travail. Et ça, c'est assez troublant. Autrement dit, le modèle qu'on connaît depuis quoi, une centaine d'années, 9h-18h, pour toute une partie des métiers, il est en train de disparaître. Il n'a plus de raison d'être, puisqu'ils disent, mais pendant les périodes de confinement, on a travaillé différemment, donc on peut travailler différemment. Donc là, on a un peu cette pression-là, et une forme d'impatience des salariés de dire, mais avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce que vous avez appris, vous, chef d'entreprise, pendant la crise, pourquoi vous ne transformez pas votre management, votre organisation, etc. Nous, on y est prêts. ce qui est une sorte d'inversion des priorités, parce que moi, ça fait 20 ans, et Jean-Marc aussi, que j'entends des chefs d'entreprise me dire on doit se transformer, mais les salariés ne veulent pas. Et bien là, c'est pareil dans l'autre sens.
Jean-Marc.
Oui, et justement, dans la poursuite de cette évolution vers le télétravail et tout ça, est-ce que. Alors, la DARES dit qu'il n'y a pas de grande démission, mais elle dit en revanche, il y a de plus en plus de gens qui demandent à être plutôt auto-entrepreneurs avec un contrat de nature commerciale avec les entreprises, plutôt que d'être dans une situation de salarié, dépendant de l'entreprise. Est-ce qu'on voit véritablement ça, ou est-ce que c'est simplement un peu une anticipation?
Avec les auto-entrepreneurs, on avait vu des réactions de beaucoup d'entreprises.
On voit deux choses assez nouvelles. Celle que vous citez, la première, on commence à la voir apparaître sur des métiers rares où les gens ont compris, de toute façon l'entreprise a besoin d'eux. C'est vrai dans les métiers de la tech, ce qu'on appelle l'UX, ces choses-là. Et donc ils se disent, moi je préfère vendre mes prestations plus comme ça à une entreprise et conserver ma liberté, donc pas être soumis au régime de contraint du CDI. C'est pas majoritaire, mais on sent que c'est un mouvement qui est en train de se créer sur les métiers 1 de tech, 2 rares, 3 qui peuvent se faire à distance. C'est les 3-4 caractéristiques. L'autre phénomène auquel on observe, c'est que vous avez aujourd'hui des gens qui démissionnent alors même qu'ils n'ont pas d'emploi derrière. Et ça, c'est un phénomène très nouveau. Parce qu'ils ont assez confiance dans le marché du travail pour se dire, bah, vu le métier que je fais, vu sa rareté, vu que tout le monde cherche, je peux démissionner, je trouverai forcément quelque chose dans 2-3 mois.
Et justement, face à ces démissions, est-ce que les entreprises réagissent autrement face aux candidats à l'embauche, pendant l'entretien, dans les propositions qu'elles donnent, dans la quête de sens, dans le salaire, dans l'organisation du temps de travail? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme?
Alors, elles font plusieurs choses. La première, ne nous trompons pas, la question de la rémunération reste le critère numéro un. C'est une erreur de penser que le sens, tout ça, va remplacer la rémunération. Ça dure qu'un temps, ça. En revanche, l'organisation dans le travail, c'est sûr que ça devient un deuxième critère assez fort, notamment via le télétravail, mais pas que. Ce qui pose d'ailleurs à des entreprises, parce que les entreprises ont posé leur télétravail, mettons 2 jours, mais aujourd'hui, elles accueillent des candidats qui disent « Mais moi, je viens d'une entreprise où j'avais 3 jours, donc je me suis organisé comme ça, comment on fait ?» Donc là, vous avez deuxième critère. Troisième critère, ça commence à apparaître assez fortement dans les nouvelles générations, c'est l'engagement de l'entreprise pour l'environnement, etc. Mais c'est un peu ces 3 critères-là. Donc, qu'est-ce que font les entreprises en face? D'abord, elles communiquent mieux sur leur marque employeur. La deuxième chose, elles sont en train de retravailler, c'est très bien, leurs process de recrutement qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop contraignants et qui datent d'une époque où vous étiez sur un marché d'employeurs et pas d'employés. Aujourd'hui, les gens, si vous leur faites faire 50 entretiens et que ça dure 3 mois, hop, vous les perdez. Alors qu'avant, vous les perdiez pas. Donc c'est plutôt là-dessus qu'elles travaillent. Et puis, elles travaillent pas mal aussi sur les sujets de management, mais ça, c'est évidemment des mouvements beaucoup plus longs.
On a les ANAO qui sont en train de commencer dans des grandes entreprises. Oui. Quels sont les grands enjeux? Bon, il y a les primes qui vont être proposées, mais enfin, les salariés n'ont pas l'air de beaucoup mordre à la prime. Ils sont plutôt attachés à des augmentations de salaire pérennes.
Ces sujets-là, c'est toujours difficile d'avoir une approche globale. Chaque entreprise est un peu différente. C'est quoi les éléments de différence? La situation dans laquelle elle est, notamment en sortie du Covid. Qu'est-ce qu'elle a fait les années précédentes, notamment 2022, mais également durant les années de Covid, ça change tout. Et puis, la nature de salarié qu'elle a. C'est vrai que les débats sont relativement vifs. Tout simplement parce qu'il y a une réalité d'inflation et que les gens demandent que ce soit pris en considération. En plus, le budget tel qu'il était présenté, on voit que l'inflation est appliquée à différents endroits. Donc, c'est normal qu'il y ait cette réaction-là. Il n'y a pas plus de tension que ça. Il y a un échange. C'est vrai qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Mais une chose un peu troublante pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que finalement, on n'a pas connu ce phénomène d'inflation depuis des années. Oui. Donc vous avez peu de dirigeants en France qui ont dirigé des entreprises avec des inflations à 6%. Quand vous promeniez à 1 ou 2, vous faisiez 1 ou 2% de NAO et puis on n'en parlait plus. Puis dernier point, attention à ne pas sacrifier sur l'autel des augmentations générales les augmentations individuelles. Parce que là, on irait à l'encontre des attentes de bon nombre de salariés et pas que les cadres.
Jean-Marc ?
Oui, juste une autre question qui n'a rien à voir. Notre première ministre vient d'annoncer qu'il allait y avoir un indicateur sur
l'index senior.
L'index senior.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous vivez ça comme un nouveau gadget ou est-ce que ça correspond à une véritable réflexion et enjeu qu'ont les entreprises sur comment mieux utiliser les seniors?
Alors, au titre de la NDRH, j'aurais mauvaise grâce à mal le prendre, puisque c'est nous qui l'avons proposé dès 2018.
Oui.
Et on n'avait pas été retenu. Tout simplement en disant, la méthode motif, c'était pas un gadget de plus. C'était dire, on passe son temps à faire des index, des mesures sur toutes les discriminations de la Terre, et c'est très bien. Mais on en oublie une, la principale à l'embauche, qui est l'âge. C'est pour ça qu'on avait dit ça. Donc j'ai entendu avec plaisir la Première ministre annoncer qu'on va enfin se saisir du sujet. Mais plus important, ça veut dire qu'enfin le gouvernement communique clairement sur le fait que la réforme des retraites ne peut s'envisager sans un véritable travail sur le marché des seniors, où on est quand même un mauvais élève de l'Europe, parce que ce serait un marché de dupes. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, index, pas index, peu importe. Maintenant, les entreprises, elles prennent en charge. C'est vrai que L'Oréal, où j'ai l'honneur d'officier, a pris la tête d'un mouvement d'entreprises, une cinquantaine d'entreprises qui ont signé une charte pour l'emploi des seniors. Donc les entreprises commencent à prendre, mais comme elles le font depuis quelques temps. Deux derniers points là-dessus, très rapides. Le premier, le problème ne se situe pas dans la capacité des entreprises à les garder, parce que ça, on a beaucoup amélioré le score. En revanche, dans leur capacité des entreprises à les embaucher, premier point. Et deuxième point, il faudrait concentrer les politiques de soutien à l'emploi des seniors à partir de 55 ans et d'arrêter de dire qu'on est senior à 45. Parce que ça concentrerait les éventuels financements, les aides ou autres sur 55, 65 et on sait que c'est là où les choses se passent et pas avant.
Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, voilà. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, d'être venu aujourd'hui.
Merci à vous.
Dans 60 minutes business. Allez, tout de suite, on accueille Pierre Kupferman.
BFM Business. 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 des articles les plus lus sur notre site BFM Business, l'un des moments préférés de Jean-Marc Daniel, attention. Et on commence, Pierre, par ces aides dont peuvent bénéficier ceux qui se chauffent au bois. Article on ne peut plus pratique qui intéresse d'autant plus que le chauffage au bois intéresse de plus en plus de Français.
Ben oui, notamment ceux qui se chauffent ou se chauffaient au fioul, énergie fossile, qui n'est pas protégée par le bouclier tarifaire, il faut quand même le rappeler. Donc vous avez dans cet article, alors je ne vais pas lister les aides, hein, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu...
Trop exhaustif, il y en a trop.
Oui, il y en a beaucoup.
Voilà.
Bon, il n'y en a pas tant que ça.
On n'a pas le temps en plus.
Voilà. Mais en revanche,
fastidieux, peut-être.
Fastidieux. C'est propos, merci Jean-Marc.
Les propos qui ont été tenus par Elisabeth Borne sur BFM TV, qui ont été repris dans cet article, alors je cite la Première Ministre, « Personne ne comprendrait qu'on aide ceux qui consomment des énergies fossiles et pas ceux qui se chauffent au bois. » Ça, c'est vraiment une évidence. Et la chef du gouvernement qui s'interroge aussi, et là, c'est plus intéressant, sur la hausse du prix du bois qui a explosé. Je ne sais pas, vous chauffez au bois, Jean-Marc, ou pas?
Et dans ma maison de l'Entre-deux-Mers, je me chauffe avec des cheminées.
Bah, c'est du bois, voilà.
C'est du bois. Et je peux vous dire que je ne sais pas où en est le prix, mais c'est quand même de gré à gré, c'est avec les voisins.
Eh ben, sachez que vous allez voir votre gré à gré quand vous allez faire la négociation, parce que le prix du bois a quand même explosé. Alors, il n'y a pas que les granulés de bois, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle le pelet. Non, c'est tout le bois qui a, dont le prix a explosé. Donc la Première Ministre dit qu'elle est prête à mettre la filière sous surveillance parce qu'on a des forêts en France, dit-elle. Donc ça sera aussi intéressant de regarder si certains ne profitent pas de la crise pour augmenter les prix.
Autre sujet qui intéresse beaucoup, c'est le salaire des enseignants, Pierre.
Ah bah oui, avec ce chiffre qui figure noir sur blanc dans le PLF, 935 millions d'euros consacrés aux hausses des salaires des enseignants et une augmentation du budget de l'éducation nationale supérieure à l'inflation, hein, 3,7 milliards d'euros. Alors on sait que les enseignants avaient déjà vu leur salaire augmenter cette année avec la revalorisation du point d'indice pour un coût total de 2 milliards d'euros. Jean-Marc, est-ce que cet effort, c'est juste un rattrapage après des années de baisse, donc rattrapage a priori légitime, ou un vrai effort de revalorisation de ce métier? Est-ce que ça va suffire, pour le dire autrement, pour susciter davantage de vocations?
Je pense que ça ne suffira pas. Il y a des types de matières où il faudrait être beaucoup plus allant. Je veux dire qu'avant de trouver des mathématiques et des professeurs de mathématiques et des professeurs de physique, je pense qu'il faudrait augmenter davantage les salaires. Mais il faudrait aussi plus de souplesse dans le recrutement. Je pense qu'il y a des ingénieurs qui sont prêts à consacrer 4 ou 5 ans de leur vie à être professeurs de mathématiques.
C'est vrai qu'on
peut être
professeur.
À partir de 55 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le deuxième plus lu, ce qui prouve que parmi nos auditeurs, il y a beaucoup d'enseignants. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Et on finit avec une initiative originale de la ville de Saint-Brieuc, Pierre.
Effectivement, elle concerne l'éclairage public, cette innovation. Alors, c'est très simple. L'idée, c'est de maintenir, de ne plus maintenir les lampadaires allumés quand il n'y a personne dans la rue. C'est du bon sens. Donc, les briochins vont pouvoir appuyer sur un interrupteur virtuel pour éclairer certaines des rues de la ville qui ne sont plus, qui n'ont plus besoin de lampadaires allumés en permanence. Il faudra pour ça télécharger une appli sur son smartphone et ça a déjà été expérimenté dans plusieurs communes de France, mais Saint-Brieuc est la plus grande ville de France à passer à cet éclairage à la demande.
C'est bien, non ?
Mais je ne sais pas s'il faut conclure de ces choix d'articles que nos auditeurs téléspectateurs sont des enseignants bretons, mais...
qui aiment éteindre la lumière.
Et se chauffe au bois.
Exactement. Merci messieurs, merci Jean-Marc, à demain.
À demain.
Pierre Kupferman dans un instant. Le journal de Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et elle... la une, ça y est, le gouvernement a choisi la nouvelle direction d'EDF. Déclaration de Bruno Le Maire ce matin sur France Inter. Le ministre de l'économie précise que l'annonce est imminente et laisse entendre que la direction sera bicéphale. Selon nos informations, la direction générale devrait revenir à Luc Rémond de chez Schneider et la présidence à Claude Imoven de chez Orano, selon les Échos. Le gouvernement veut lancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires avant la fin du quinquennat. Un projet de loi visant à simplifier les procédures a été présenté avec l'objectif d'une mise en service à compter de 2035. Emmanuel Macron s'est engagé en février dernier sur la construction de 6 nouveaux réacteurs de nouvelle génération avec une option pour 8 autres. Total Energy va investir 1 milliard d'euros sur 2 ans pour améliorer l'efficacité énergétique de ses entreprises. Cela va libérer un volume important car nous sommes nous-mêmes de gros consommateurs d'énergie. Déclaration de Patrick Pouyanné lors d'une conférence organisée par l'Agence française du gaz. Les salariés de Total Energy qui sont en grève aujourd'hui pendant au moins 3 jours. Ils réclament des hausses de salaire et menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-service en carburant. Après Renault, la semaine dernière, Stellantis propose une prime pouvoir d'achat à la majorité de ses salariés jusqu'à 1 400 euros dès le mois prochain, ainsi que la possibilité de monétiser 3 jours de RTT. Par ailleurs, le groupe avance les négociations salariales pour l'année prochaine au mois de décembre. Stellantis qui signe un partenariat avec Uber pour accélérer la transition du VTC dans l'électrique. Ça va se faire via Free2Move, l'activité d'autopartage du groupe qui propose plusieurs options de location de véhicules aux professionnels. Uber veut convertir 50% de sa flotte actuelle vers l'électrique d'ici 3 ans. On jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. L'indice parisien maintient le rebond, hein, plus 0,7%, 5 814 points, Sandra.
Merci beaucoup Stéphanie. Votre prochain journal à 15h.
Votre rendez-vous avec Hello Work. Plus de 4000 recrutements chaque jour partout en France. 60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM Business avec vous, deuxième partie de l'émission avec Lorraine Goumeau, comme tous les jours. Et nous parlons aujourd'hui, Lorraine, de la rémunération des cadres.
Et oui, on va s'intéresser à eux, pourquoi pas. On va faire ça avec un petit nouveau, il s'agit de Jean de Calviac. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé chez Avanti, avec nous pour discuter aussi de comment pallier la baisse de pouvoir d'achat qui concerne les cadres, peut-être dans votre entreprise également. On va démarrer avec cette question. Jean, quelle est, d'un point de vue employeur, la différence ou les différences entre des profils cadres et des salariés non cadres ?
Alors, c'est une excellente question. Longtemps, ça a été très simple. Puisque le cadre, qu'est-ce qu'il avait le cadre ? Il avait la retraite des cadres. Mmh. Ça datait de 1947. On était après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. On avait voulu reconstruire un système de retraite et on a créé une retraite spécifique pour les cadres. C'était ce qu'on appelait l'AGIRC. Ça a été créé en 1947 et c'est mort en 2017. Longtemps, la retraite des cadres, c'était le marqueur du statut cadre. Mmh. J'étais cadre puisque j'étais à la retraite des cadres. Sauf que là, ce marqueur principal est mort et disparu puisqu'il n'y a plus de retraite des cadres. Il y a un système de retraite qui s'applique à tous les salariés. Et donc, la grande question pour les entreprises, c'est finalement, qu'est-ce qu'un cadre et à quoi sert encore la différence cadre-non-cadre ?
Bah dites-nous, à quoi elle sert cette différence encore ?
Alors justement, on va vers des différences plus mi-programmées. On va sur d'autres points, on va distinguer des personnes qui ont des fonctions d'encadrement et des salariés qui ont des profils experts. Et sur à ces profils différents vont répondre bah, justement des problématiques salariales différentes.
Alors, deuxième question pour faire un peu le portrait de ces cadres et de comment ils s'en sortent dans leur rémunération. Est-ce que vous diriez que les salariés cadres négocient plus que les autres ? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous ?
Oui. Alors, clairement, la réponse est oui. À titre individuel, un salarié cadre négocie plus qu'un salarié non cadre. Après, de l'autre côté, ce que les cadres vous répondrez en entreprise. Moi, j'ai le cas chez une de mes clientes. Ils disent, mais écoutez, nous, il y a eu des négociations qui ont été faites avec les organisations syndicales et nous, on était un peu oubliés dans les négociations. Et on avait des problématiques spécifiques, particulières. Nous sommes moins nombreux que les non-cadres et donc nous avons un besoin de négociation individuelle.
Les cadres souffrent aussi de la baisse du pouvoir d'achat. Quel est le meilleur dispositif pour enrayer cette baisse de pouvoir d'achat des cadres ?
Alors, c'est une question qui intéresse beaucoup les entreprises, puisqu'en effet, les problématiques des cadres en matière de rémunération, notamment des cadres avec les rémunérations les plus élevées, ne sont pas les mêmes que les problématiques rencontrées par les non-cadres. Pour un grand nombre de salariés, et c'est le cas chez beaucoup de nos clientes actuellement, l'idée, c'est d'avoir du cash immédiatement, puisqu'on a une problématique de boucler les fins de mois. Mmh. Ce qu'on constate en revanche chez le non-cadre, et on a mené un certain nombre d'études, la grande peur actuellement du non-cadre, c'est la disparition de son patrimoine. C'est d'avoir un patrimoine qui se dégrade, et c'est plutôt comment est-ce que je fais pour mes enfants, comment est-ce que je fais pour les études de mes enfants, comment est-ce que je fais pour ma résidence principale. Et là-dessus, alors, il y a un très beau mécanisme, qui est un mécanisme qui est très ancien, tout le monde en parle, peu de personnes le pratiquent, ça a plus de 80 ans, le général de Gaulle l'avait évoqué en 1943, c'était de rendre les salariés actionnaires de leur entreprise. 1943, ça a été fait en 1967, et là, c'est très amusant, puisque les grands mécanismes dont on parle là beaucoup de réformes de la participation et de l'intéressement. Ces mécanismes-là ont été un peu dévoyés. À la base, quelle était l'idée du général de Gaulle lorsqu'il a créé ces mécanismes ? C'était pas de donner une prime de pouvoir d'achat, c'était de vous permettre d'avoir des actions, soit de votre entreprise, soit des entreprises d'un panel français. Et le choix, le pari qui avait été fait à l'époque par le général de Gaulle est payant. Puisque imaginez le salarié qui a fait sa carrière entre 67 et 1990 et qui percevait ses primes en actions, quand vous avez un rendement moyen à 7 ou 8%, et bien le pari a été gagnant. Sauf qu'on a eu ces problématiques d'achat récentes et les mécanismes Sarkozy ou Macron où on a voulu justement débloquer et détourner l'intéressement et la participation de leur mécanisme originel pour se tourner vers du cash et du court terme. Or, le désir des cadres, et ils ne sont pas idiots, ils voient comment est-ce qu'on fait fortune en France. Mmh. En France, actuellement, le patronat, dans le private equity, les personnes s'enrichissent avec le capital. Mmh. Et donc, l'une des demandes des cadres, notamment des cadres avec la plus haute rémunération, c'est d'avoir justement des actions.
Donc il y a une dichotomie entre ceux qui veulent du cash, qui veulent liquider ces mécanismes de participation d'intéressement pour avoir immédiatement plus de pouvoir d'achat, et les autres qui sont financièrement un peu plus smart et qui continuent à miser sur le capital. C'est ce que vous observez, si je résume bien ?
On l'observe bien. Et c'est là, en fait, où il y a une grande responsabilité des organisations syndicales. Puisque lorsque vous dites à un salarié qui a des problèmes de fin de mois, que non, en fait, c'est mieux, dans 10 ou 15 ans, vous verrez, la bourse va augmenter, il sera beaucoup plus riche, il va tout de suite vous répondre, non, mais écoutez, moi, j'ai une pratique de fin de mois.
Oui.
Mais alors que les organisations syndicales peuvent avoir une meilleure connaissance et elles peuvent justement se plonger dans le domaine. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des plans qu'on appelle les plans ISOP. Ces plans ISOP sont des plans qui permettent aux salariés d'être propriétaires de leur entreprise. Il y a eu un succès phénoménal puisque 10% des entreprises américaines sont concernées par ces plans. Mmh. Et la grande surprise sur ces plans, c'est même pas leur réussite économique, c'est plutôt que ça fait consensus aux États-Unis. C'est pas un sujet de cristallisation entre le patronat et les syndicats, c'est un sujet qui est consensuel. C'est-à-dire que les républicains sont pour l'actionnariat salarié puisque, schématiquement, ils veulent rendre tous les salariés capitalistes, et les démocrates sont également pour l'actionnariat salarié, puisque ça permet de redistribuer les richesses. Et en ces périodes-là, en ces périodes justement de majorité un peu plus incertaine, ça peut être en fait un beau projet transpartisan de relancer cet actionnariat salarié.
Bon, c'est intéressant ce parallèle avec les États-Unis. Il faudra qu'on vous invite sur une autre émission, mais pour conclure cette séquence, on aimerait vous adresser quelques questions d'auditeurs, Jean, notamment celui-ci qui va sans doute faire écho à ceux qui nous écoutent. On a anonymisé notre auditeur qui travaille, je vous la fais courte, dans un grand groupe bancaire dépendant d'un autre grand groupe. Il nous écrit: on fait rentrer une recrue de l'extérieur dans mon entreprise qui a la même expérience et la même formation que moi, même école, même nombre d'années d'expérience. En cette période de pénurie, il semble avoir bien négocié, puisque notre auditeur apprend que son futur confrère va toucher 40% de plus que lui. Il nous demande comment s'appuyer sur cette information pour lui-même aller renégocier son salaire.
Alors, c'est sûr que dit comme ça, une différence de 40%, ça semble beaucoup. Surtout qu'il y a un principe juridique qui est posé, c'est qu'il est à travail égal, salaire égal. De là, je vous donnerai en fait 2-3 retours d'expérience, c'est qu'il faut beaucoup se méfier de Radio Moquette. En réalité, qui connaît le salaire de son voisin? Moi, j'ai eu l'exemple où on avait une très forte différence de rémunération. Les personnes montent au créneau, les syndicats nous disent que c'est inadmissible, 30% de différence de rémunération. Sauf qu'on avait confondu une rémunération brute et une rémunération nette sans les primes. Donc, attention, bien évidemment, il peut en parler à son employeur. Attention à bien vérifier ses sources.
Oui, parce que 30%, c'est vrai que ça fait... C'est les charges, en gros. Bon, allez, un autre cas pratique pour vous. Pareil, c'est intéressant parce qu'on va parler de management. Un auditeur qui est dans le conseil nous écrit « Je manageais 20 personnes avant la crise sanitaire. Mon équipe s'est réduite comme une peau de chagrin à 5 personnes. Mon employeur peut-il décider unilatéralement de réduire mon salaire ?»
Alors, si on parle de salaire, la réponse est non. On n'a pas le droit de réduire unilatéralement le salaire. En revanche, il y a parfois des avantages qui sont institués à côté, des plans de rémunération variable, annuels ou long terme, qui sont mis en place en vigueur avec d'autres sources, c'est-à-dire des engagements unilatéraux, des usages, des conventions collectives. Et ceux-là, bien évidemment, peuvent être modifiés, mais en aucun cas le salaire de base.
Donc salaire, vous pouvez être rassuré. Par contre, les variables, les primes, les autres dispositifs...
Ça dépend de la façon dont ça a été institué.
Bon, on ne peut pas répondre à toutes vos questions, mais ces sujets de rémunération, de salaire, vous nous écrivez beaucoup dessus. On réinvitera Jean pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean de Calbiac. Vous êtes avocat associé chez Avanti. Et puis, bien sûr, vous avez des questions, vous nous écrivez. Vous voyez, on y répond. On fait travailler tout un panel d'experts. Merci, Jean de Calbiac, d'être venu. Vous restez avec nous dans un instant, on recrute. Vous n'oubliez pas aussi votre rendez-vous LinkedIn. Notre question cette semaine, travailler dans une start-up, fait-il toujours rêver? Vos réponses seront détaillées sur ce plateau vendredi à 12h40. Allez, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous qui recrute votre premier recruteur. Lorraine aujourd'hui est Jean-Charles Brandely. Il est le directeur général de l'École française. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour mesdames.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui forme des gens à plein de choses. Quelles sont les formations qui ont le plus de succès chez vous?
Les formations qui ont le plus de succès chez nous sont les formations qui intéressent énormément les entreprises en ce moment. Beaucoup de formations dans la vente, le management, le marketing, le digital. On entend de plus en plus de demandes autour de la RSE et pas mal de demandes dans les secteurs de services à la personne, notamment sur le CAP petite enfance ou CAP auxiliaire de vie.
Est-ce que vos clients, ce sont des cadres comme des non-cadres, des indépendants comme des salariés ?
On a toutes les typologies d'apprenants, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, comme des gens qui ont des diplômes bac plus 2, bac plus 3. On s'adresse vraiment à une large majorité. Les CAP vont s'adresser plutôt à des publics qui ont peut-être pas de diplômes. En revanche, les formations sur le management commercial, le management à distance ou le marketing digital va s'adresser à une population un peu plus différente, probablement plus de cadres.
Bon, on voit effectivement que ça fonctionne bien. Vous êtes 55 actuellement et vous voulez recruter 25 à 30 personnes.
Absolument, on a un plan de développement assez important depuis que nous avons un nouvel actionnaire, le groupe Eduservice, qui est entré de façon majoritaire à notre capital et qui va accompagner notre développement, notamment pour sortir des nouvelles formations. L'idée étant de développer et de proposer des formations continues à des adultes, là où eux proposent des formations initiales aux étudiants, dans une approche 100% à distance, 100% en ligne. Donc, l'idée, c'est de sortir quasiment 3 formations par mois, de doubler le catalogue d'ici un an. Et donc, on a besoin de monde pour réussir ce challenge.
Alors justement, vous allez, Jean-Charles, nous lister les gens les plus urgents à trouver sur le marché du travail pour réussir ce doublement du nombre de formations.
Alors évidemment, le métier cœur, c'est les ingénieurs pédagogiques e-learning, donc des gens capables de construire les parcours de formation à distance, donc avec du contenu vidéo, des exercices en ligne, des quiz, du motion design, donc tout ce qui va permettre de suivre la formation à distance. Ce sont vraiment les chefs de projets digitaux, les ingénieurs pédagogiques. Ça, c'est la première population qu'on recherche activement.
Vous êtes sur des métiers quasiment de la production vidéo, en fait.
Oui. c'est à la fois de la production vidéo et de la pédagogie. Donc comment je transmets un savoir derrière une caméra, en effet. Donc il y a besoin de comprendre le contenu et d'installer notre patte pédagogique dans un contenu vidéo. Donc ça, c'est vraiment le métier numéro un sur lequel on recrute.
Et puis il faut commercialiser ces formations, évidemment.
Absolument, et on recrute de nombreux conseillers en formation, donc déjà des collaborateurs capables d'accompagner, d'écouter le besoin. Est-ce que j'ai un besoin de monter en compétences par rapport aux défis de mon poste? Est-ce que j'ai envie de changer de poste et donc cibler un nouveau métier? Ou encore me reconvertir complètement, changer de voie? Donc, en fonction de ce besoin, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension et être capable d'accompagner sur les bonnes décisions de formation.
Jean-Charles, vous êtes dans un secteur qui est très compétitif. La formation, on sait, se porte bien, notamment grâce au dispositif du CPF. Comment on crée une entreprise avec une marque employeur dans un secteur où, disons, il y a de la porosité entre les entreprises?
C'est une excellente question. Effectivement, le dispositif du CPF est un dispositif qui fonctionne bien, qui redonne le pouvoir aux employés de choisir leur parcours professionnel, la liberté de choisir. Et je crois que pour réussir, il faut être capable
de choisir sans se ruiner.
De choisir sans se ruiner, absolument, mais aussi de faire un vrai investissement, parce que ce sont des fonds qui sont entre guillemets accessibles, mais qui déterminent un parcours professionnel, et les apprenants sont très conscients de ça. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, pour se distinguer sur ce marché-là, je crois qu'il faut essayer de résoudre une équation qui est le besoin des entreprises en recrutement et les envies des Français. Et notre job, c'est de parler aux Français, aux employés, mais aussi aux entreprises, pour comprendre quels sont les besoins, pour, comme on dit, close the gap en termes de compétences.
Comment on recrute postule, Lorraine.
Vous avez envie de close the gap, vous écrivez à l'adresse rh@lecolefrançaise.fr. Elle s'affiche pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay.
Et puis, bien sûr, ça se passe également sur l'interface de Welcome to the Jungle, sur la page de l'École française. C'est tout simple et c'est très clairement français.
Merci, Jean-Charles Brandly, d'être venu nous voir aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, et sur cette adresse aussi avec vous. @bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous regarder aussi attentivement cet écran sur BFM Business, sur vos tablettes. Vous surveillez ce QR code grâce auquel vous pouvez directement nous écrire. Votre deuxième recruteur, Lorraine, est Johan Jouot.
Et il est Lillois. Bonjour Johan.
Bonjour. Bonjour à vous deux.
Vous êtes le responsable du développement ressources humaines chez Allistic. Avec vous, on part dans la transformation numérique. Et pour pitcher votre entreprise, on va donner une expression, un chiffre. 80% des problèmes sont situés entre la chaise et le clavier. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, nous, déjà, notre activité, c'est d'intervenir sur des sujets de cybersécurité. C'est-à-dire que depuis quelques temps, c'est un sujet d'actualité. Oui. Les entreprises à tout niveau, les collectivités, font face à des cybermenaces. Et nous, notre volonté, dans notre positionnement, en tout cas, c'est de pouvoir remettre un peu le collaborateur face aux bonnes pratiques. Tout simplement, ne pas faire en sorte que la cybersécurité soit quelque chose de mal, mais vraiment pouvoir résoudre ces problèmes déjà par le biais de l'humain.
Alors, quel poste vous recrutez spécifiquement? Vous recrutez beaucoup de monde, 15 CDI?
Exactement, et si c'est plus, c'est bien. on va recruter aujourd'hui sur nos deux grands cœurs de métier, qui sont la gouvernance. Donc, on va rechercher des experts qui vont intervenir sur la mise en place et le déploiement de stratégies cyber. Et également des experts qui vont plutôt intervenir d'un point de vue technique sur la sécurité informatique. C'est ce qu'on appelle des SecOps chez nous, qui vont donc du coup optimiser d'un point de vue sécurité toutes les infrastructures des entreprises et des collectivités qu'on accompagne.
Comment a évolué? Vous vous êtes lancé en 2018, oui. Vous avez navigué la crise Covid, vous accompagnez, vous insistez beaucoup sur le terme aussi des collectivités, pas que des entreprises privées. Comment s'est amélioré l'entendement numérique des salariés et des fonctionnaires? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est moins pire qu'avant?
Je pense qu'il y a une prise de conscience, puisque même en tant que citoyen, on se fait hacker, on reçoit des SMS, on reçoit du phishing, etc. Et en fait, du coup, il y a une émergence qui est arrivée, une prise de conscience globale en tant que citoyen, et donc on est un peu plus soucieux en entreprise de pouvoir appliquer des bonnes pratiques de sécurité. Et les collectivités et l'État ont mis en place aussi des dispositifs qui permettent d'améliorer la cybersécurité, et les entreprises qui prennent un virage numérique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'intégrer finalement cette sécurité informatique à partir du début d'un projet.
Sandra le disait, vous recrutez une grosse quinzaine de personnes. Vous êtes déjà une vingtaine, ça implique un doublement de taille. Mm-hmm. Vous êtes basé à Lille et précisément à Eura Technologie, un campus qu'on connaît bien. Est-ce que c'est un bon environnement pour faire de la cyber? Et est-ce que justement c'est un élément de recrutement de se trouver dans ce campus de start-up?
Alors, ce qui est hyper intéressant avec Eura Technologie, c'est qu'on est dans un écosystème d'entrepreneurs qui, voilà, et nous, ça nous permet d'être face aux besoins de demain, de pouvoir anticiper quels vont être, eux, leurs besoins en termes de sécurité informatique.
Vous regardez vos voisins se faire ficher, en fait, et vous avez des idées, quoi.
Bah, en fait, on se rend compte que même dans notre quotidien, il y a plein de choses qui émergent et la sécurité informatique implique aussi quelque chose de physique. Et eux expriment leurs besoins de demain. Nous, ça nous permet d'optimiser nos offres, d'anticiper et de pouvoir proposer des solutions innovantes, pour ainsi dire.
Vous avez des possibilités d'embaucher avec télétravail? Est-ce que c'est une possibilité que vous proposez aux candidats?
Effectivement, aujourd'hui, dans le package entre guillemets social qu'on propose à nos collaborateurs, la flexibilité en termes de télétravail est nécessaire et une volonté de l'entreprise qui va nous permettre aussi d'aller développer d'autres zones géographiques en conséquence, puisqu'on on est en train de travailler sur le lancement de Paris actuellement. C'est le projet phare du moment et de pouvoir ensuite aller se déployer également sur d'autres zones géographiques.
Voilà, Paris-Lille, vous pouvez postuler à l'adresse qui s'affiche à l'écran. C'est Johan qui vous donne son adresse.
Exactement.
Bah, ça, c'est un responsable du développement ressources humaines qui est proche, voilà, à proximité. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller postuler directement sur le site talent@alistic.fr. J'appelle Alistic pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. A-2-L-I-S-T-I-C. Et puis, bien sûr, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver cette interview sur LinkedIn et Twitter.
Et merci. Petite précision, on sera présent également à la Talent Fair organisée par Eura Technologie, événement qui va regrouper un peu plus de 60 structures et qui va permettre de développer également le réseau.
Quand? Merci.
C'est le lundi 3 octobre.
Voilà, ça approche. Merci Yoann Jo d'être venu nous voir dans 60 minutes business. Vous pouvez retrouver, demain on parlera droit du travail avec vous Lorraine évidemment. On se retrouve demain. N'oubliez pas aussi à 8h10 demain matin, Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, sera l'invité de Good Morning Business jusqu'à 8h30. Rendez-vous est pris. Très bonne journée sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.